S'il est un domaine où l'Union européenne pèse lourd dans la vie quotidienne de millions de personnes, c'est bien celui de l'agriculture. La politique agricole commune pèse à elle seule un tiers du budget de l'Union. La nouvelle PAC pour les années 2023-2027 sera en discussion toute l'année. Le cadre européen a été fixé. À chaque pays maintenant de définir son plan stratégique national. Cela tombe au moment où la France, première bénéficiaire de la PAC, prend la présidence du Conseil de l'Union européenne. Elle aura un rôle clé dans l'organisation des différentes réunions des ministres européens, de l'agriculture notamment. Alors quelles orientations? Quel rôle la nouvelle PAC va-t-elle jouer dans la transition vers une agriculture plus verte? La Cour des comptes et l'autorité environnementale jugent les objectifs pas assez ambitieux à ce stade. La toile de fond, c'est aussi le recensement agricole décennal paru récemment. La France a perdu en 10 ans 100 000 exploitations. Les agriculteurs vieillissent. Chaque année un peu plus, la question du renouvellement des générations devient cruciale. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions à notre invité jusqu'à 13h45, le ministre de l'Agriculture. Bonjour Julien de Normandie.
Bonjour.
Avant de parler agriculture, parlons politique. Vous qui suivez ça de très près, ce débat suspendu la nuit dernière à l'Assemblée. Faute de députés En Marche en nombre suffisant, comment expliquer que sur un texte aussi important, on ait manqué de députés dans la majorité, Julien de Normandie?
Non, je crois surtout que ce que nous avons vu cette nuit, c'est la preuve de l'incapacité de Valérie Pécresse de gouverner le pays. C'est la preuve que Valérie Pécresse est la candidate de l'incohérence. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez une candidate à la présidence de la République qui, sur tous les plateaux de télévision, sur toutes les radios, ne cesse de dire qu'elle est pour le pass vaccinal. Elle ne cesse de le dire. Mais elle n'est absolument pas capable de tenir ses troupes. Hier, songez que vous avez 34 députés des Républicains qui ont voté contre le pass vaccinal, dont son porte-parole. Et vous n'avez que 4 députés les Républicains qui ont voté en faveur du pass vaccinal. Et donc je crois que depuis ce matin, le débat n'est pas du tout porté au bon endroit. La question n'est pas du tout de savoir si...
Pas d'examen de conscience du côté des marcheurs.
Qu'est-ce qui s'est
passé? Sur un texte important, on manquait de députés, il n'y a pas d'examen de conscience de votre côté.
Il s'est passé ce qu'on appelle le coup du rideau. Ça veut dire quoi le coup du rideau? Ça veut dire que tout d'un coup, à un moment du vote, vous aviez des parlementaires cachés derrière le rideau, comme on dit, qui est l'entrée de l'Assemblée, de l'hémicycle, qui tout d'un coup débarquent...
Un classique de la vie parlementaire.
Un classique de la vie parlementaire, mais un classique qui, permettez-moi de vous le dire, est quand même assez cynique, voire totalement irresponsable, quand il s'agit de faire un tel classique pour arrêter la discussion d'un projet de loi aussi important. Parce qu'au même moment, hier soir, à minuit, il y avait énormément de soignants qui, à l'hôpital, travaillaient dans les urgences et l'ont fait toute la nuit. Et donc, quelle irresponsabilité, quel cynisme. Mais surtout, il faut en tirer une conclusion. C'est que cette candidate à la présidence de la République française, c'est la candidate de l'incohérence. Bon, elle n'est pas capable de tenir ses troupes. Elle n'est pas capable de concilier les positions d'un Éric Ciotti totalement droitisé de la manière la plus radicale possible et de ses troupes quand vous voyez que même son porte-parole vote contre le pass vaccinal.
J'imagine qu'il y a eu quelques mots pour les députés En Marche qui n'étaient pas là quand même.
Mais encore une fois, ce coup de... tous les amendements importants ont bien été votés. La majorité était présente. Mais quand vous avez ce coup du rideau, c'est-à-dire que tout d'un coup, sur un vote, vous avez des dizaines de députés, ou en tout cas une majorité de députés qui arrivent, qui débarquent pour faire ce coup du rideau, qui est effectivement un classique, mais qui peut s'attendre à avoir un tel cynisme au moment où il s'agit de discuter un texte aussi important pour les Français, qui est le texte sur le pass vaccinal. Et donc la nuit qui s'est passée en dit long, et d'ailleurs je note que depuis ce matin, Valérie Pécresse et les Républicains ne savent plus où se mettre, ne savent pas expliquer comment cela a été possible. Outre leur alliance avec le Rassemblement National ou la France Insoumise sur ce sujet, cette incohérence qui a été montrée, elle est absolument criante. Et je crois que tout le monde doit bien le voir, parce que c'est assez tragique, objectivement.
Allez, parlons agriculture, monsieur le ministre. Un sujet clé pour les agriculteurs et consommateurs français, les distorsions de concurrence entre les pays de l'Union européenne et le reste du monde. L'utilisation de farine animale ou d'antibiotiques, par exemple, dans l'élevage. Puisque la France prend la tête du Conseil des ministres européens, est-ce qu'elle est prête à lutter contre ces distorsions de concurrence? Un exemple concret, est-ce que la France est prête à bloquer l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur?
Oui, et d'ailleurs c'est une position du président de la République. La France dit non à cet accord avec le Mercosur. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que ces pays du Mercosur, donc du continent sud-américain, utilisent beaucoup la déforestation pour faire leur propre agriculture. Coupent les arbres pour mettre de l'agriculture. Qui peut accepter aujourd'hui qu'un accord favorise l'importation de produits issus de la déforestation? C'est un non-sens, notamment environnementale. Donc la France, oui, s'oppose et continuera à s'opposer à cet accord avec le Mercosur. Mais moi, je souhaite aller encore plus loin. Aujourd'hui, il y a un débat de fond qui est très intéressant et qui est très important. On continue à importer en Europe des produits qui ne pourraient pas être fabriqués en Europe. Pourquoi ? Par exemple, dans l'agriculture, on continue à importer des viandes utilisant ce qu'on appelle des antibiotiques de croissance. On donne à des animaux, en dehors de l'Europe, des antibiotiques tout au long de leur vie pour être sûr que jamais ils n'attrapent de maladies et doper leur croissance. En France et en Europe, ça fait 10 ans qu'on les a interdits.
Alors comment on empêche ça ?
On continue à les importer. Et ben ça, c'est un des objectifs de la présidence française de l'Union européenne, de mettre en place ce qu'on appelle des clauses miroirs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les normes de production qu'on a fixées à nos agricultures en Europe, elles doivent s'imposer aux autres États qui souhaitent nous vendre leurs propres produits alimentaires. Ce sont des clauses miroirs.
Et une partie de nos partenaires européens, pour lesquels l'agriculture est moins importante, vont s'y opposer au nom, par exemple, du pouvoir d'achat, parce que ça aboutit à des produits moins chers.
Non, vous aviez...
Et donc, on n'obtiendra pas l'unanimité sur des questions pareilles.
Vous avez raison de souligner que tous les pays européens ne sont pas aussi allants que la France. Maintenant, les choses sont en train de changer. Il y a une vraie dynamique politique qui est en train de se créer. Ces clauses miroirs, cette opposition au Mercosur, c'est ce qu'on appelle la réciprocité des normes. Il y a quelques années, c'était impossible de parler réciprocité, parce que vous aviez des pays en Europe très libéraux qui étaient contre et qui se disaient « si on met ça, on pourra plus exporter ». Aujourd'hui, les choses changent, et notamment les dernières élections en Allemagne vont permettre de faire changer les choses encore plus rapidement, parce que l'Allemagne, qui souvent a eu une position très libérale, aujourd'hui le nouveau gouvernement allemand est moins sur ces positions-là. Donc on a un vrai momentum politique
et l'objectif
pour pousser
du coup,
cela.
L'objectif du coup, Julien de Normandie, c'est quoi ? C'est que ce soit gravé dans le marbre européen à la fin de la présidence française ?
C'est exactement cela, avec des sujets très concrets. Je vous ai donné l'exemple de ces clauses miroirs sur les produits utilisant des antibiotiques de croissance. Je pourrais vous donner un autre exemple, c'est comment on fait en sorte d'avoir des normes à l'importation de produits pour lutter contre tout produit qui serait fait et qui serait issu de la déforestation. C'est une grande stratégie que la France met sur la table justement de la présidence là maintenant.
Objectif, avoir avancé d'ici à 6 mois.
Lutter contre cette déforestation importée et de manière plus générale de revoir ces normes du commerce international. Et donc oui, il y a des sujets très concrets sur lesquels on va pouvoir avancer et ce sera notamment le rôle des ministres de l'Agriculture et de l'Alimentation que de les imposer, c'est-à-dire de créer ce momentum politique et d'avancer sur ces sujets aussi concrets que je viens d'indiquer.
Beaucoup de questions sur la PAC, Julien de Normandie. Au standard, rappelons que la PAC, c'est 60 milliards chaque année, dont 9,5 pour la France, qui est la première bénéficiaire. Il appelle de Charlotte au standard. Bonjour Charlotte.
Bonjour, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie, je vous présente en un mot. Vous êtes éleveuse de vaches laitières bio, c'est bien cela ?
Tout à fait.
Et la question, c'est comment faire une PAC plus verte ? Allez-y.
Et on est deux associés sur la ferme.
Oui.
J'ai bien aimé comment Monsieur Duvic vous aviez introduit les choses et résumé brièvement les choses, mais c'est très important, c'est que on a fait évoluer l'agriculture en France vers justement plus de transition agroécologique. Nous, on est deux associés et justement, on a fait évoluer notre ferme dans ce sens-là. On touche aujourd'hui de l'argent de la PAC pour les efforts qu'on fait sur notre ferme. Sauf que à l'échelle de l'ensemble de la distribution du budget de la PAC en France, on est vraiment oublié. Nous aussi, on est oubliés. Par rapport à mes collègues qui ont plus de surface, parce que c'est quand même l'argent de la PAC est aussi d'abord distribué par rapport à la surface qu'on a, nous, à l'échelle de notre ferme, on a à peu près 15 000 euros de moins que nos voisins. On est très inquiets pour la prochaine programmation qui aujourd'hui ne va pas du tout dans le sens de soutenir ceux qui ont été vers une agriculture comme ça.
Alors Charlotte, restez avec nous si vous le voulez bien. On va entendre la première réponse de Julien de Normandie. Le reproche qui est fait à la PAC et à notamment la stratégie nationale française, c'est encore des aides en fonction de la taille et donc les petites exploitations bio ne vont pas toucher assez d'aides.
Alors, si on prend le cas particulier de la bio, il s'avère que l'aide à la bio est l'un des postes de la politique agricole commune qui augmente le plus. On va les augmenter de 30%.
Parce qu'on partait bas.
Non. On passe de 250 millions d'euros par an à 340 millions d'euros. Pourquoi on fait ça ? Parce que notamment, on estime aujourd'hui qu'il faut continuer à convertir de plus en plus d'exploitations vers le bio. Et donc, on renforce ce qu'on appelle l'aide à la conversion. Parallèlement à ça, ce qu'on voit notamment sur le bio, et donc ça on le fait très fort dans la politique agricole commune, mais parallèlement à ça, qu'est-ce qu'on voit sur le bio et notamment sur le lait bio pour répondre à l'auditrice
Charlotte qui est en Ille-et-Vilaine.
Eh bien, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur le lait bio ? C'est que on produit plus de lait bio en France que les consommateurs n'en achètent. Et ça, ça doit nous interroger. Alors nous, on doit prendre nos responsabilités en tant que gouvernement pour aider. Et notamment, il y a quelques jours, les parlementaires ont voté un crédit d'impôt renforcé pour les exploitations qui font du bio. Un crédit d'impôt qui va passer à 4500 euros par an, en plus des aides de la PAC, pour pouvoir renforcer l'aide aux producteurs de bio. Mais ça doit nous interroger, nous aussi, en tant que consommateurs. Parce qu'en tant que consommateurs, si on fait un test auprès des auditeurs, tout le monde dit on veut plus de transition environnementale. Que ce soit du bio, que ce soit de la haute valeur environnementale. Bref, on veut de plus en plus de produits de qualité.
Mais au moment de passer à la caisse, on est plus réticent.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on est citoyen de bon matin, mais consommateur passé le quart d'heure. Et donc, sur le lait bio, c'est très caractéristique. En ce moment, on produit plus de lait bio que les consommateurs n'en achètent. Et donc moi, j'en appelle vraiment à tous les consommateurs. Faisons le choix des productions françaises, de ces productions de qualité bio, HVE, ou sous signe de qualité...
Haute valeur environnementale.
Ou sous signe de qualité, comme les labels rouges, etc.
Charlotte,
et ça, il faut absolument le faire. On a un rôle à jouer en tant que consommateur.
En un mot, est-ce que vous avez du mal à écouler votre production ?
Oui, bien sûr. Enfin, moi, je ne vends pas toute seule. Je fais partie on est quand même à 33% à peu près de la production laitière bio française, hein, c'est Biolay. Et donc, nous, on est la variable d'ajustement chez Biolay parce qu'en fait, comme il y a une baisse de la consommation de lait bio, eh ben, nous, on trouve plus d'acheteurs et à des prix, convenables. Donc, c'est nous qui avons la répercussion sur notre ferme. Et moi, c'est 20 000 euros sur ma ferme en moins cette année. Et c'est moi et mon associé qui allons devoir rendre des comptes à nos fournisseurs sur comment on va faire pour payer nos factures. Et quand Monsieur de Normandie répond, il ne répond pas parce qu'il a bien dit, on va donner plus d'argent à ceux qui vont aller vers la conversion. Mais ceux qui y sont déjà, comment est-ce qu'on va continuer à la soutenir ? Et haute valeur environnementale, tout ça, c'est des nouveaux cahiers des charges qu'on va amener en plus pour aider ceux qui n'avaient pas forcément commencé à faire des
efforts. Et qui se passent à la conversion,
donc,
bien.
On noie le poisson et qui ont déjà des aides à l'hectare. Enfin, il ne faut pas oublier tout ça non plus. Hein. Enfin, après, c'est très technique.
On va laisser Julien de Normandie vous répondre parce que j'ai compris le principe général et je pense les auditeurs aussi. Merci Charlotte.
On a vraiment, comme le dit Charlotte, deux objectifs à la fois. Convertir plus de personnes. Je crois que c'est très important. Quand vous voyez, par exemple, dans les fruits...
Mais elle dit, ceux qui y sont déjà, on n'est pas assez aidés.
Mais comme vous voyez dans les fruits et légumes, par exemple, dans les fruits et légumes bio, c'est l'inverse du lait bio, on importe 30%. Donc il faut convertir plus. Maintenant, il y a d'autres secteurs, comme le lait bio, où on produit plus que les consommateurs ne consomment. Et donc là, c'est ça, le crédit d'impôt que j'évoquais. Le crédit d'impôt, il est destiné à qui ? Il est destiné à ceux qui sont... aujourd'hui installés en bio, pour faire en sorte que ceux qui sont aujourd'hui installés en bio puissent avoir ce coup de pouce par le crédit d'impôt qu'on a renforcé pour le porter à 4500 euros et le prolonger sur la durée. Mais Charlotte l'a
très
bien dit.
En un mot, parce que je voudrais qu'on prenne une autre auditrice.
Charlotte l'a très bien dit. Aujourd'hui, on n'écoule pas toute la production. Et donc, je le redis, quand on a tous les débats sur les prix des aliments et l'inflation, n'oublions jamais que quand on achète un aliment, posons-nous la question d'où il vient, parce que si on veut aider Charlotte et tous les agriculteurs français qui font un boulot d'extrême qualité, eh bien, si on achète du poulet ukrainien, du poulet brésilien et pas du poulet français, ou des produits importés qui parfois sont moins chers, mais de bien moindre qualité, eh bien, on ne développe pas notre propre agriculture. Donc, il faut absolument, dès qu'on en a la possibilité, faire ce choix de nos productions territoriales.
Madeleine au standard, bonjour Madeleine, tout autre sujet.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour les auditeurs. Voilà, nous constatons actuellement une pollution importante des captages d'eau potable par des pesticides dans ma région, mais dans toute la France. Un pesticide comme le méthylachlore, qui est suspecté d'être perturbateur endocrinien dangereux pour la santé. Or, actuellement, l'utilisation des pesticides en France est en augmentation de 20% depuis ces 10 dernières années. Alors, on vient d'entendre une agricultrice bio qui a de la peine à vivre. Et on entend le même son vers chez nous. Alors, quelle action allez-vous mettre en place pour protéger des pesticides, des aires d'alimentation, des captages d'eau potable qui coûtent, parce que c'est des pollutions, coûtent des fortunes.
Julien de Normandie, on va laisser le ministre vous répondre.
Eh bien, plusieurs choses. D'abord, je ne suis pas d'accord avec les chiffres que vous avez donnés, Madeleine. Et quelle est la réalité aujourd'hui ? Depuis 2017, on a par exemple, en France, doublé, je dis bien doublé, la surface de bio. On a, par exemple, en 3 ans, multiplié par 20 je dis bien par 20, le nombre d'exploitations dites de haute valeur environnementale. Les substances, les molécules les plus préoccupantes, on les a réduites de 93% depuis 2017. Ce qu'on appelle les CMR1, celles qui sont un peu moins préoccupantes, mais préoccupantes, on les a réduites de 48%. Pourquoi je dis ça? D'abord parce que la transition, elle est là. Et il faut le dire parce que nos agriculteurs se sont fortement engagés. Il faut leur exprimer notre gratitude vis-à-vis de ces engagements. Et deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est investir massivement dans nos agricultures pour leur permettre de mettre en place des méthodes et des pratiques culturales qui permettent de sortir d'un certain nombre d'impasses, comme vous l'avez dit. Et ça, c'est notre rôle, nous, pouvoir public, d'investir aux côtés des agriculteurs. On le fait, par exemple, avec France 2030, où on va investir près de 3 milliards d'euros dans ces ensembles de modernisation de nos agricultures, dans cette troisième révolution agricole, comme j'aime à la définir, celle du vivant et de la connaissance. C'est par l'investissement qu'on pourra aller encore plus vite dans cette transition.
En un mot, vraiment, s'il vous plaît, en un mot, le glyphosate, les industriels demandent d'ores et déjà la prolongation de l'autorisation qui s'achève théoriquement à la fin de l'année. Quelle sera la position de la France, oui ou non, à une prolongation?
La position de la France a toujours été très claire, c'est de dire dès lors qu'il y a des alternatives, c'est-à-dire des alternatives crédibles environnementalement et viables économiquement,
de votre point de vue,
alors on l'arrête, et quand il n'y a pas d'alternative, on ne l'arrête pas. Et ça dépend des usages, ça dépend des utilisations qu'on en fait.
Et donc, pas forcément d'arrêt à la fin de l'année.
Mais c'est un arrêt quand il y a une alternative, et quand il n'y a pas d'alternative, à ce moment-là on continue. Juste un exemple très précis.
Non, on n'a plus le temps, je suis désolé.
Mais alors vraiment, en un mot, aujourd'hui, vous l'utilisez, par exemple, ce désherbant, pour capter du CO2 dans le sol, ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Si demain vous arrêtez de le faire, vous émettrez des dizaines de milliers de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, avec un impact sur le changement climatique. Tout ça, c'est compliqué, et on le fait avec pragmatisme.
Merci Julien Denormandie d'être passé dans les studios de France Inter. 13h46.